Radio Rancière présente le quart d'heure de santé, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Je reçois aujourd'hui le docteur Jacques Payot, chirurgien urologue. Il est en retraite en France, mais il travaille beaucoup. C'est pourquoi je le remercie d'avoir accepté mon invitation. Docteur Jacques Payot, bonjour.
Merci Christiane.
Je voudrais savoir d'abord un peu vos étapes. J'aimerais bien qu'on revienne même à votre scolarité, voilà. Puisque dès 14 ans, vous regrettiez de ne pas avoir appris le grec, c'est bien cela.
Ah oui, on parlait de cela de manière off.
Voilà.
Je m'étais cassé la jambe et à la suite de cette fracture de jambe, un séjour hospitalier de longue durée, j'étais en admiration devant les blouses blanches, les chirurgiens, les anesthésistes, les infirmières, etc. etc. Je me disais, il faut absolument que je devienne au moins médecin. Ouais. Et donc depuis 14 ans, je veux être médecin et un jour, à l'âge de 16 ans, je réalise que je n'ai pas fait de grec. Et je savais que le vocabulaire médical fait très très souvent appel au grec. Et donc je vais voir mon professeur de français à la fin de l'heure de classe et je lui demande, monsieur, est-ce que vous pensez que je peux quand même faire médecine bien que n'ayant pas fait de grec? Et il a eu le mot très rassurant, mais il m'a dit, mais oui mon cher ami, vous pouvez faire médecine même si vous n'avez pas fait de grec. Enfin, il a eu les mots qu'il fallait, ce qui fait que je suis devenu médecin et puis chirurgien.
Donc vous ne vous êtes jamais posé de questions, et vos parents étaient médecins?
Non, pas du tout. Non. Si, j'avais un arrière-grand-père qui était médecin.
Ah voilà, médecin certains de campagne, atavistes quand même alors.
Et si, alors, donc nous faisons cette émission à Nogent-le-Rotrou, j'ai eu un oncle par alliance qui a été médecin généraliste à Nogent-le-Rotrou, qui s'appelait le docteur Frémont, le docteur Jules Frémont, qui était donc un oncle par alliance.
Ah oui, en quelle année ça c'était?
On est entre les deux guerres là.
Eh bien écoutez, bravo, parce que vous avez réussi ce que vous aviez entrepris. Donc vous faites tout de suite vos études, vous devenez médecin, comment ça s'est passé?
Oui, je fais mes études, enfin j'étais parisien, j'ai fait mes études à Paris, et puis j'ai fait tout mon cursus là-bas, avec un petit passage ensuite à la fin de mon cursus, après mon internat, 2 ans à Nancy, 1 an au Canada, et ensuite mon installation à Chartres, où j'ai donc passé 32 ans comme chirurgien urologue.
C'était
la clinique du docteur Banco, qu'on appelle plus communément la clinique Bon Secours, qui malheureusement n'existe plus parce que depuis le 1er janvier, c'est-à-dire depuis 4-5 jours, elle est maintenant fondue avec la clinique Saint-François. Et les murs de la clinique Banco persistent, il y reste des consultations, mais toute la chirurgie, toute l'hospitalisation s'effectue maintenant à la clinique Saint-François, qui a été un petit peu agrandie, ravaudée si je peux dire, pour pouvoir accueillir la clinique Bon Secours.
Et là, maintenant, vous n'êtes plus chirurgien à Bon Secours, mais vous avez choisi une autre voie, si je puis dire.
Je suis à la retraite depuis 3 ans, tout juste. Mais j'avais envie de continuer à manipuler un petit peu le bistouri. Et donc, j'ai proposé mes services en Afrique, non pas à des associations, mais à des hôpitaux qui ont été créés par des religieux au Togo, c'est avec les frères Saint-Jean de Dieu, qui ont une très belle clinique à Paris, rue Oudino, qui est très, très connue. Il y a beaucoup de gens qui sont hospitalisés là-bas. Et puis les jésuites qui ont créé un bel hôpital africain à N'Djamena, c'est-à-dire au Tchad. Et cet hôpital africain a l'avantage, en plus d'être un petit CHU, c'est-à-dire qu'on y forme des étudiants en médecine et quelques spécialistes, parmi lesquels quelques chirurgiens, et j'espère prochainement un vrai urologue qui est actuellement en cours de formation et dans lequel je fonde beaucoup d'espoir, ce qui nous permettra d'aller de moins en moins en Afrique au fur et à mesure où l'Afrique s'équipera, notamment en urologue, et pas seulement en urologue, évidemment.
Parce que vous êtes urologue dans certains hôpitaux et vous êtes professeur dans d'autres, c'est ça?
Au Tchad, c'est ça, je suis chirurgien urologue, donc j'enseigne la chirurgie et on donne aussi des petits cours pour la formation des étudiants.
Voilà. Et ça, vous faites ces voyages-là 2 ou 3 fois par an?
Oui, c'est ça, cet ordre-là. Alors, mon épouse trouve que c'est toujours un peu trop. Mais je suis content de me replonger dans le bain du bistouri.
Oui, ça vous aimait bien?
Oui, c'est vrai, j'adore. Mais c'est vrai que c'est un métier que j'ai adoré. Certains m'ont dit que je l'ai trop adoré. Mais
pourquoi ? On peut pas trop adorer.
Peut-être. Peu importe. Donc c'est un métier que j'ai adoré et que j'ai arrêté brutalement un 1er janvier, il y a 3 ans. Et donc je suis content de temps en temps de me replonger dedans et puis d'enseigner le peu que je sais à ces Africains qu'il faut absolument faire monter en puissance dans leurs connaissances, pas seulement en chirurgie bien sûr, mais pour tout le reste, pour que ce pays devienne autonome et que enfin les Africains n'aient pas envie de traverser la Méditerranée de manière improvisée.
Alors, une autre question. Vous avez appris la chirurgie avec des caméras ou sans caméra?
Je suis de la génération qui a appris la chirurgie par compagnonnage, la chirurgie dite à ciel ouvert. C'est-à-dire, on donne un coup de bistouri. Et d'ailleurs, il y avait un vieil adage qui disait les grands chirurgiens font des grandes incisions. C'est un vieil adage qui ne veut absolument rien dire. Alors que, bien entendu, on cherche maintenant à faire les plus petites incisions possibles, voire pas d'incisions ou quasiment pas d'incisions, puisqu'on travaille le plus possible par célioscopie maintenant. Donc on fait des petits trous, de minuscules incisions qui permettent donc d'opérer exactement comme on ferait à ciel ouvert.
Ah oui.
Exactement.
On voit aussi bien.
Il faut s'habituer à cette nouvelle vision, puisque c'est une vision qui est plane, alors que quand on est à ciel ouvert, on a le relief normal. Là, il faut s'habituer à cette nouvelle vision. Donc, il y a toute une phase d'apprentissage et que malheureusement, ma génération a été obligée d'effectuer alors que nous étions installés. Nous étions déjà bien aguerris en chirurgie. Et puis, il a fallu réapprendre à opérer sous cette forme de célioscopie, ce qui posait évidemment des problèmes au départ, des problèmes d'apprentissage où on faisait venir des experts qui venaient nous aider, qui venaient nous montrer. Nous, on allait suivre des cours à droite, à gauche, en France ou à l'étranger, jusqu'à ce que l'on soit suffisamment opérationnel pour pouvoir faire cette chirurgie sans danger.
Bien sûr.
Et après, s'est posé exactement le même problème avec le robot qui est apparu dans les années 2000, où il a fallu là aussi un petit peu réapprendre à opérer, bien que le robot est en fait une célioscopie améliorée. Mais c'est toujours quand même de la célioscopie. Donc quand on savait faire la célioscopie, on pouvait se mettre quand même assez facilement au robot.
Mais alors, par exemple, quand vous donnez des cours, vous apprenez essentiellement la célioscopie ou bien vous apprenez aussi à couper?
Alors, en Afrique, il est absolument hors de question de leur apprendre la célioscopie et encore moins le robot. Ça ne sert à rien. Il faut revenir aux données de base.
Et
les données de base, c'est... Mais parce qu'ils n'ont pas les équipements. Et dès qu'un... imaginez que qu'un célioscope tombe en panne. Alors, le célioscope lui-même ne tombe pas en panne, mais on ne peut faire de la célioscopie que en injectant du gaz carbonique dans le ventre du patient pour gonfler ce ventre et avoir de la vision. Si le gaz carbonique est en panne, ce qui arrive très très souvent en France, mais on remplace immédiatement la bonbonne par une bonbonne neuve, et donc on s'arrête une minute d'opérer le temps que la ponceuse change la bonbonne. Mais en Afrique, on va tout le temps manquer de bonbonne de gaz. Alors on en aura une, mais on n'aura pas la deuxième. Donc il est hors de question de commencer une opération en célioscopie en Afrique, tant qu'on n'a pas l'environnement que nous avons dans nos pays industrialisés.
Et vous ne le faites pas du tout parce que j'imagine
non, surtout
que quand...
pas, surtout non. pas, surtout pas.
Mais alors quand ces chirurgiens viennent en France pour...
Alors c'est la grande tentation.
C'est la grande tentation
parce qu'effectivement, ils viennent faire des stages chez nous. On fait en sorte de leur apprendre ce que nous savons et ensuite de les remettre dans leur métier. Ils n'ont qu'une envie, c'est de continuer leur célioscopie. La célioscopie qu'ils ont apprise chez nous, ils veulent évidemment la reproduire chez eux. Et donc, ils vont tout faire pour ça. Mais tant que l'équipement n'est pas là, c'est dangereux. C'est même... Il ne faut pas le faire.
J'imagine qu'il faudrait savoir faire les deux. Parce que quelquefois, on est peut-être tenté de se dire, Il vaudrait peut-être mieux que je coupe. Est-ce que ça vous est arrivé ?
Il faut absolument savoir faire les deux. Lorsqu'on est en célioscopie, il faut savoir convertir. Nous employons ce mot, c'est un mot religieux.
Oui.
Nous convertissons la célioscopie en chirurgie ouverte parce qu'il arrive parfois que, au cours de l'acte célioscopique, la vision ne soit pas bonne ou le relief n'est pas bon, on n'est pas à l'aise, on n'est pas sûr de son geste, on ne sait pas exactement où on va couper, où on va faire le point de suture. Et quand ce problème se pose, il faut arrêter la célioscopie et faire une grande incision, c'est-à-dire redevenir un grand chirurgien, faire une grande incision et aller faire l'opération. Alors évidemment, pour le patient, c'est moins
plus
bien
long.
Dans la mesure où il aura plus de temps pour il va demander plus de temps pour cicatriser, mais au moins l'opération sera bien faite, alors que parfois elle était mal démarrée en célioscopie. Donc il faut savoir convertir.
Vous voyez,
ne sommes pas des prêtres ni des grands prêtres. Nous ne sommes que des chirurgiens.
Oui, mais combien de vies vous avez sauvées, c'est très important. Alors aujourd'hui, vous avez décidé d'évoquer pour nous les différentes formes de calcul. Alors, il y a, moi je ne savais pas, 4 formes de calcul. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, dire en quoi ces calculs sont différents ?
Alors, il y a effectivement de nombreuses formes de calculs urinaires qu'on appelle des lithiases. Pour simplifier, j'en ai retenu 4. La première, c'est l'oxalate de calcium. C'est le plus fréquent qu'on voit tout le temps, notamment en Beauce, qui est une région très, très calcaire, comme le savent les agriculteurs, quand ils passent le soc de leur charrue et qu'ils ramènent de la pierre, et que l'eau est très, très calcique. On voit énormément de lithiases oxalocalciques en Beauce et donc à Chartres. Le deuxième type, c'est
c'était la majorité des calculs.
C'est la majorité, oui.
Pour Chartres.
Pour ce que j'ai vécu à Chartres, oui.
Tout
à fait. La deuxième, c'est les phosphates de calcium, qui ont la particularité d'être plus friables et moins visibles aux rayons X, mais ils sont assez faciles à traiter. La troisième, ce sont les phosphates, alors ce n'est pas un gros mot, Christiane, ce sont les phosphates ammoniaco-magnésiens. Ce sont des calculs qui se forment dans les reins et qui y restent parce qu'ils grossissent très vite. Et du fait qu'ils grossissent, ils ne peuvent pas migrer vers le bas, ils ne peuvent pas s'extirper d'eux-mêmes. Donc ils vont grossir, et ils vont grossir dans une atmosphère infectieuse. Et ils vont progressivement, s'ils sont méconnus, ils vont détruire les reins. Donc il nécessite des traitements très spécifiques. Et puis le quatrième type de calcul sont les calculs d'acide urique, qui ont une particularité très intéressante, c'est que ce sont les seuls calculs que l'on peut faire fondre. Il n'y a aucun autre calcul, à ma connaissance, que l'on puisse faire fondre, sauf les exceptionnels calculs de cystine. On peut les faire fondre en faisant avaler du bicarbonate, c'est-à-dire en rendant les urines alcalines.
Eh bien, chers amis auditeurs, nous retrouverons le docteur Payot dans un mois et il nous expliquera justement ces différents types de calculs. Un grand merci à vous, docteur Payot, et dans un mois pour cette prochaine émission. Chers amis auditeurs, vous pourrez également nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci à vous.